5 minutes maxi, un petit condensé sur ce qu'on avait vu la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas forcément là. D'abord, pourquoi étudier l'Évangile? Mais tout simplement parce qu'il nous parle de notre sauveur, de combien c'est important. Et en faisant un petit point, ça faisait plus de 15 ans que nous n'avions pas étudié l'Évangile, donc il fallait revenir dessus. On a choisi l'Évangile de Marc parce que c'est peut-être aussi celui qui est le plus mis de côté et peut-être le moins étudié. Donc voilà, c'était un petit peu pour nous plonger dans cet Évangile qui est peut-être le plus méconnu des quatre. Combien c'est important aussi de se baser dans l'Ancien Testament qui est vraiment qui donne des exemples merveilleux, des images qui nous aident à comprendre le Nouveau Testament et l'Évangile, et les Évangiles en particulier. Et on avait vu un petit peu, donc, il y a eu 4 siècles de silence de la part de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et donc on avait vu ce qui s'était passé durant ces 4 siècles. Et ça, c'était encourageant parce qu'en étudiant un petit peu certains versets de Daniel, on a pu voir que, oui, si Dieu est resté silencieux, par contre, il était aux commandes, et tout ce qui était prophétisé par Daniel, mais c'est accompli, et l'histoire nous montre qu'effectivement, avec les fouilles archéologiques, etc., que, bien, tout ce que nous découvrons, eh bien, Daniel nous l'avait annoncé. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et puis également, bon, un petit peu, voilà, pourquoi 4 évangiles, pas un seul, pourquoi 4 et pas plus, puisque on entend parler d'évangiles de Huntel, etc. Et non, on voit que, et d'ailleurs je vous ai mis un verset, voilà, l'Éternel nous dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le contexte, là, il s'adresse à Jérémie pour l'encourager à parler au peuple et à Israël aussi, et à diverses nations. Mais on peut dire que c'est un principe, l'Éternel veille sur sa parole. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent de cela et qui nous montrent que oui, l'Éternel est celui qui veille. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la parole de Dieu, on peut vraiment se confier en elle parce que l'Éternel l'a protégée et elle nous est arrivée encore aujourd'hui là, avec vraiment dans son intégralité. Rien n'a été enlevé, rien n'a été ajouté. Et on peut vraiment fonder nos vies sur la parole de Dieu. Voilà, donc voilà, très très rapidement ce que nous avions pu voir la dernière fois. Et on n'avait pas eu le temps, alors on avait parlé aussi les 4 évangiles. On se rend compte que c'est vrai qu'il nous montre Jésus-Christ, mais avec des nuances un petit peu particulières. Et notamment, donc il y a les 3 premiers, Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils ont une vue commune, et Jean qui est un petit peu à part. Mais même les 3 premiers, ils ont quand même des nuances. Et Jean aussi. Et ça nous montre donc des particularités de notre merveilleux Sauveur. Et par exemple, Matthieu nous montre surtout Jésus comme étant le Messie qui avait été promis, attendu par les Juifs. Marc va plutôt mettre l'accent sur Jésus serviteur. Et donc on va le voir plus de façon un petit peu plus approfondie maintenant. Luc, c'est plutôt le fils de l'homme, hein, donc Jésus parfaitement homme, et Jean, c'est plutôt le fils de Dieu, Jésus parfaitement Dieu, mais tous nous parlent de, par exemple, Jésus parfaitement Dieu, hein, de sa divinité, tous les évangiles nous parlent de sa divinité, et commencent avec justement une notion qui est en rapport avec la divinité de Jésus-Christ. Donc, c'est pas du tout restrictif, bien entendu, mais c'est juste des fois des nuances qui peuvent nous aider à comprendre un petit peu plus chaque évangile. Alors, mais là, on va commencer donc un petit peu donc cette introduction à l'évangile de selon Marc, et puis après, Dieu voulant, on prendra le premier chapitre. Alors, juste 4 petits points que je voudrais voir avec vous. D'abord, qui était Marc? Ça, c'est quand même assez intéressant de s'arrêter un petit peu là-dessus. Après, qui étaient les premiers destinataires supposés de cet évangile? Je dis supposés parce que, bon, voilà, c'est à prendre un petit peu avec de la hauteur. Donc, le thème principal de l'évangile, selon Marc, je vous ai dit, il met plutôt l'accent sur Jésus, le parfait serviteur. Voilà, mais pourquoi dire cela, hein? Donc, je vous montrerai quelques passages qui peuvent nous pousser à penser cela. Et puis c'est tout. Il me semble que j'avais 4e point, apparemment. Donc voilà, qui était Marc? Alors, juste petite parenthèse. Les auteurs des évangiles, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Hein. Donc là aussi, il y a beaucoup de débats. Et encore une fois, hein, si on sait que Dieu veille sur sa parole, bon, voilà, on veut vraiment se dire que c'est vraiment Marc qui a écrit cet évangile. Si jamais ça vous intéresse, il y a quand même beaucoup, beaucoup de convergences qui nous montrent que oui, c'est Marc qui a écrit cet évangile. C'est plus simple avec Jean, parce que Jean, il va parler à un moment du disciple que Jésus aimait, et on sait que c'est Jean, hein, par d'autres évangiles, et après il va dire c'est lui qui a écrit ces textes. Donc c'est simple avec Jean, un petit peu moins ça avec les autres, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de pistes qui nous font dire qu'effectivement c'est Jean, et ce qu'on appelle les pères de l'Église, hein, donc des chrétiens qui ont écrit beaucoup de documents, de livres qui ne sont pas dans le canon, donc que l'on prend avec beaucoup de prudence, parce que ce n'est pas la parole de Dieu, mais qui sont quand même précieux et qui vont dans ce sens-là. Et si jamais vous êtes intéressé, je pourrais vous donner des noms de ces auteurs qui montrent vraiment que c'est Marc qui a écrit ce livre. Mais qui était Marc? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les actes des apôtres, entre autres, vont souvent parler de Marc. Je vous ai mis une référence que vous pouvez prendre dans Actes au chapitre 12. On va lire les versets 11 à 14. Il s'agit de Pierre qui est emprisonné et il est miraculeusement délivré. Mais lorsqu'il sort accompagné par un ange, là, il ne sait pas s'il rêve ou si c'est la réalité. Et lorsqu'il se retrouve dehors, là, il se rend compte que oui, c'est la réalité. Et donc, il nous a dit ceci, revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, selon Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et vous connaissez la suite, hein, où ils n'ont pas cru, alors qu'ils étaient en train de prier pour la libération de Pierre. Voilà. Mais là, on apprend quand même beaucoup de choses sur Marc. D'abord, il s'appelait non pas Marc, mais Jean. Hein, et puis, on le surnommait Marc, un petit peu comme Gino qui s'appelle Bruno, hein, ou comme Simon qui était surnommé. Pierre. Donc, voilà, bravo. Et donc voilà, Jean surnommé Marc. Donc la maison de Marie, sa mère, le père n'est pas mentionné, ce qui nous laisse supposer que bon, il est peut-être décédé. Et ce que l'on voit aussi, c'est que beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, donc c'était une maison assez grande. Et puis également, il y avait une servante, donc on peut supposer que c'était quand même des gens relativement aisés. Alors, comment savoir que c'était Marc? En fait, c'était un prénom qui était assez rare, donc il y a de fortes probabilités pour que oui, c'est bien de Marc qu'il s'agit, du Marc qui a aussi écrit le deuxième évangile. Alors, un autre texte aussi, bon, on ne choisit pas sa famille, le pauvre, il était cousin des Barnabas. Aristarque, donc dans Colossiens 4:10, Aristarque, mon compagnon de captivité pour salut, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Donc il était aussi cousin de Barnabas, non pas des Barnabas, mais de Barnabas. Et puis également, on voit dans 1 Pierre 5, verset 13, est-ce que quelqu'un veut prendre cette référence et nous la lire? 1 Pierre 5, 13.
L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils.
Voilà, ainsi que Marc, mon fils. Donc voilà, on voit qu'il y a une proximité entre Pierre et Marc, ce qui a fait dire à certains que probablement, ou peut-être en tout cas, que Marc était le fils spirituel de Pierre, qu'il est venu au Seigneur par le ministère de Pierre. Et on sait que voilà, hein, qu'il a été très très proche de l'apôtre Pierre. Donc voilà, ça nous dit un petit peu ce que qui était Marc. Qui était Marc, oui, voilà. Bon, maintenant, Si on continue, on se rend compte que Marc, il a fait parler de lui, mais pas toujours dans, dans le bon sens. Hein. Dans Actes au chapitre 12, il va faire partie du voyage avec Barnabas, donc son cousin, et puis Saul, donc Paul. Donc Actes 12, 25, après s'être acquitté de leur message, ils s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc on le retrouve, et puis ils vont entreprendre ce voyage avec, avec Marc, sauf que bien au bout d'un moment, ça ne colle plus. Et en Actes 13, 13, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc voilà, Jean c'est Marc en fait. Hein. Marc, il n'a pas voulu continuer, donc on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça a été mal pris. Et Paul, voilà, Paul n'était pas très très heureux de ce que Marc décide de repartir. Alors, quelles étaient les raisons, hein, peut-être qu'il voulait revoir sa petite maman. En tout cas, on n'en sait strictement rien. Mais ce qui nous est dit, c'est que dans... alors, je n'ai pas noté la... si, dans Actes chapitre 15, versets 36 à 39. Là encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire ?
Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas... Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre.
Voilà, merci. Alors là, on voit que voilà, hein, alors si on se dit, tiens, on reconnaît l'arbre à son fruit, ben Marc, le fruit qu'il a apporté, c'est la dissension, donc c'est pas top. Hein. Sauf que, moi je trouve que c'est vraiment encourageant, parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on voit qu'il n'en est pas resté là. Et que, bien, le Seigneur, malgré nos difficultés, malgré nos écueils, malgré le fait que des fois, nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, eh bien, avec patience, il va continuer, vraiment, à nous former. Et même si on n'a pas été utile, ou même on a été même peut-être inutile à un moment pour son œuvre, eh bien, il va permettre, oui, que nous soyons tous des instruments utiles dans ses mains. Et c'est ce qui va se passer pour Marc. Et Paul, là, qui était assez en colère après lui, eh bien, il va après changer d'attitude. Et on le voit. Alors, on a lu dans Colossiens, qu'est-ce qu'il nous a dit, voilà, que amène Marc, alors où est-ce que je l'ai oui, voilà. Aristarque, hein, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Et donc déjà, Paul dit, voilà, si Marc vient, bien, il faut l'accueillir. Donc ça montre que c'est quand même quelqu'un qui est maintenant précieux à ses yeux. Et donc déjà, on voit qu'il y a un changement. Mais regardez aussi dans Philémon, le verset 24. Si quelqu'un a, il peut le lire.
Ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs.
Voilà. Marc fait partie des collaborateurs de Paul. Donc voilà, hein, déjà, ça c'est assez extraordinaire. Et puis enfin, je vous lis dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 11. Donc Paul s'adresse à Timothée, il va lui dire « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens s'en est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Vous voyez le changement, hein. Alors qu'il y avait eu une dissension parce que Paul ne voulait pas que Marc les accompagne, étant donné ce qui s'était passé auparavant, là il dit, voilà, prends-le parce qu'il est utile pour mon ministère. Donc voilà, la restauration que le Seigneur a accomplie pour Marc, et ce qu'il y a d'encourageant, c'est que eh bien, il fait la même chose aussi avec chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Alors voilà, qui était Marc? Maintenant, qui étaient les premiers destinataires supposés de ce livre? Alors, juste, j'ai pris un petit peu des idées du commentaire MacArthur à ce niveau-là, et vous pouvez le reprendre si vous l'avez, et vous verrez qu'il est assez complet. Alors, bon, Matthieu, on a dit, s'adresse à des lecteurs juifs. Voilà. Luc s'adresse à l'excellent Théophile, qui, malgré son nom, hein, était sans doute un romain, à cause de ce titre excellent. Et puis Jean, alors Jean, je ne vais pas trop m'aventurer, c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il, à déterminer qui étaient ses destinataires premiers. Il semble que pour Marc, c'était des non-juifs, et c'était un public romain. Alors, pour quelles raisons ? Premièrement, il y a beaucoup d'expressions araméennes, par exemple, que Marc va traduire. Je vous ai mis, on ne les prend pas, hein, mais dans Marc 5, 17, Jésus va dire, donc, en prenant la main d'une jeune fille qu'il va guérir, « Jeune fille, lève-toi ». Et il le dit en araméen, et ça va être donc traduit par Marc, et nous on l'a en grec. Après, il va compter les heures à la manière romaine. Alors, quand on prend l'Ancien Testament, on voit que la nuit, pour les Juifs, était divisée en trois veilles. D'accord ? Et par contre, là, lui, Marc va parler de quatre veilles. Lorsque les disciples traversent la mer et qu'ils sont en train de ramer, et que Jésus va vers eux, marchant sur l'eau, il nous a dit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il était environ la quatrième veille. Donc là, il va compter comme les Romains. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui parle dans cette faveur-là. Et puis, dernier argument dans ce sens-là, dans le chapitre 7, les versets 3 et 4 que je vous lis, « Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. » En fait, on voit qu'il est en train d'expliquer les coutumes juives. Donc, il ne va pas expliquer les coutumes juives à des juifs. Il va les expliquer à des gens qui ne sont pas au fait de cela. C'est pour ça que ça montre que, effectivement, c'était sans doute à des païens que Marc s'adressait. Mais là encore, hein, et là aussi c'est comme le thème, hein, c'est pas réducteur. Hein, c'est pas... Luc s'adresse à l'excellent Théophile, mais c'est précieux pour nous. Et on va pas dire on met Luc de côté parce qu'il s'adresse pas à nous. Ça serait complètement farfelu. Et là aussi, hein, et on voit que effectivement, s'il est dans le canon biblique, c'est si nous l'avons hein, aujourd'hui dans la parole de Dieu, si le Saint-Esprit a voulu qu'il soit là, c'est bien évidemment pour nous aujourd'hui. Et c'est bien parce qu'il est vraiment précieux pour nous aujourd'hui. Donc voilà, juste très rapidement quelques points. Et on s'attarde un petit peu aussi sur le thème principal de Marc. Donc on a dit que le thème principal, c'était vraiment nous présenter Jésus comme étant le serviteur parfait. Et à ce titre-là, moi j'ai été vraiment encouragé de voir les parallèles avec l'Ancien Testament et surtout avec Ésaïe. Je trouve que c'est formidable. Et vous verrez que souvent, je vous donnerai des références dans Ésaïe où on retrouve vraiment des situations qui décrivent Jésus, mais qui sont annoncées par le prophète Ésaïe. Je trouve vraiment que c'est formidable. Et vous savez, le prophète Ésaïe, hein, avec les quatre chants du parfait serviteur, hein, qui nous montre vraiment Jésus dans des situations particulières où il est là pour servir, tout en étant le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Marc chapitre 10, verset 45, si vous voulez le prendre. Celui qui l'a en premier peut le lire.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Voilà, donc on pourrait dire que ça c'est un petit peu, quelque part, le thème de Marc. Sauf que bien sûr, c'est quand même un verset que l'on va retrouver ailleurs. Notamment dans Matthieu, on retrouve voilà, hein, cette parole dans Matthieu aussi. On va souvent aussi, quand on lit l'évangile de Marc, on va souvent aussi se rendre compte qu'il n'y a pas autant d'enseignements que dans les autres évangiles, et on voit vraiment souvent Jésus en action. Très très souvent Jésus est en action, et c'est normal parce que c'est ce que l'on demande d'un serviteur, hein, que vraiment il soit là pour servir. La dernière fois, je vous avais dit aussi que, par exemple, on trouve la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu, on va la trouver aussi dans Luc, on ne la trouve pas dans Jean, pourquoi ? Parce que c'est le Fils de Dieu qui n'a aucune généalogie, comme ça nous est dit dans Hébreu, parlant de Melchizédek, qui a été rendu semblable au Fils de Dieu, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, ni généalogie. Il est Dieu, il est éternel. Mais on n'en trouve pas non plus dans Marc. Pourquoi ? Parce qu'un serviteur, eh bien, quelque part, on s'en fiche un petit peu de sa généalogie. Ce n'est pas ce qui intéresse le plus. On va voir très souvent, quand même, aussi évidemment, l'abaissement du roi des rois, du seigneur, des seigneurs. Et donc voilà, il va dire, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Donc moins de discours et beaucoup de situations où Jésus est en action. Et souvent, ces situations-là, elles sont décrites avec beaucoup plus de détails que dans les autres évangiles. Je vais vous donner juste un exemple. On ne le lit pas, mais dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20. 20 versets qui vont décrire l'épisode lorsque Jésus va traverser la mer de Galilée pour aller guérir un démoniaque qui est de l'autre côté, qui est dans les sépulcres. Là, on a 20 versets qui décrivent cela en détail. Dans Marc et dans Luc, c'est simplement 5 versets. Vous voyez ? Et cet exemple-là que je vous donne, on pourrait le retrouver aussi dans d'autres situations où on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de descriptions sur les actions de Jésus que dans les autres évangiles. Et puis aussi, alors quelque chose aussi que l'on peut retrouver dans Luc, qui décrit le Seigneur comme le Fils de l'homme, souvent on voit aussi, il y a les sentiments de Jésus qui nous sont donnés, qui nous sont dévoilés. Moi je trouve que ça c'est encourageant aussi, c'est vraiment encourageant. Je vous donne juste quelques exemples à ce sujet. Marc chapitre 3 versets 1 à 5. Lorsque Jésus va guérir un homme qui a la main sèche, là il nous est précisé qu'il pose la question, est-il permis, oui ou non, de guérir un homme le jour du sabbat? Et puis il va regarder les scribes, les pharisiens, le peuple qui est là, étonné de la dureté des cœurs, et il nous a dit qu'il est, voilà, il est en colère et attristé en voyant la dureté des cœurs qui sont là devant lui. Et ça ne nous est pas précisé dans les autres évangiles. On voit aussi, alors où est-ce que je l'ai mis, je ne me rappelle pas, parce que je me suis remarqué, mais par exemple, je vous le cite, lorsque il y a ce jeune homme riche qui vient le voir, donc ça nous est donné aussi dans les autres évangiles, en tout cas dans Matthieu et dans Luc, mais là, il nous est précisé que lorsque Jésus le regarda, ce jeune homme riche, Jésus l'aima. Et ça ne nous est pas donné non plus dans les autres évangiles. Donc souvent, on voit Jésus aussi avec parfaitement homme. Donc vous voyez, ça se mélange. Luc nous montre le Fils de l'homme, mais Marc aussi nous montre le Fils de l'homme. Voilà. Et si on met, si on met toujours donc, en perspective le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, regardez dans Ésaïe, où est-ce que je vous l'ai mis, chapitre 42, de 1 à 3. Je vous le dis, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Et moi, quand je lis ce passage, quand je vois, voilà, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume encore, on voit vraiment la compassion de Jésus, on voit l'amour de Jésus pour les siens, pour ceux qu'il est venu chercher et sauver. Et ça, on va le retrouver, avec notamment les sentiments de Jésus, on va le retrouver aussi dans Marc. Et c'est vraiment voilà, intéressant de mettre en perspective le parfait serviteur qui est décrit dans l'Ancien Testament, en particulier dans Ésaïe, et puis aussi de mettre donc en perspective avec notamment l'évangile de Marc. Alors, bon, on ne va pas le lire, mais Ésaïe 52, verset 13, jusqu'à la fin du 53, qui nous parle aussi du parfait serviteur. Vous connaissez bien sûr ce passage merveilleux. Voilà. Et donc maintenant, on va commencer un petit peu. Alors juste, petite précision. On va aujourd'hui, puis mardi prochain, Dieu voulant, on va essayer d'arriver, est-ce que je vous l'ai mis ici, on va essayer de voir donc le premier chapitre, le chapitre 2, et jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Donc ça fait, je crois, 90 versets. Donc ça fait beaucoup. Mais on va peut-être s'attarder davantage sur certains versets, surtout au départ, et puis après passer plus rapidement sur les autres, peut-être juste les survoler. Pourquoi ? Parce que ce sont des situations que l'on va retrouver ensuite tout au long de l'évangile de Marc. Donc on pourra revenir plus facilement et plus en détail sur ces situations-là. D'accord ? Donc voilà un petit peu l'idée. C'est pas évident de faire une synthèse comme cela. Et c'est tellement riche que on ne sait pas ce qu'il faut un petit peu enlever. Donc c'est pas du tout. Voilà, c'est pas un exercice si simple que ça, en tout cas pour moi. Et juste, je voulais vous dire aussi que on a donc fait un plan, un survol de Marc qui nous amène jusqu'en juin. Alors on n'a pas comme l'an dernier du mou. L'an dernier on avait quelques soirées en plus pour déborder. Là c'est pas le cas malheureusement. C'est pour ça qu'il va falloir synthétiser. Et alors j'ai oublié de vous dire la dernière fois que on est cinq, on a la joie d'accueillir comme animateur aussi un cinquième. Ça va être Boris qui sera là aussi. Donc il y a Jean, Georges. Je fais dans l'ordre des âges, moi, Benjamin et puis Boris. Donc voilà. Et donc pour étudier Marc. Et d'ailleurs, ça fera d'ailleurs un petit peu couleur locale. Hein. Donc, je me dis d'étudier Marc à 5, c'est pas mal. Hein. Je dis ça parce qu'on a vu des sangliers tout à l'heure en partant, donc ça me fait penser à ça. Mais bon, c'est, je suis fatigué, c'est Paul qui me fatigue. On va commencer par voir une première partie du verset 1 au verset 13, avec donc quatre sous-parties. D'abord le titre de l'évangile selon Marc, ça c'est le premier verset. Ensuite le ministère de Jean-Baptiste, les versets 2 à 8. Et puis le baptême de Jésus, versets 9 à 11. Et enfin la tentation dans le désert, versets 12 à 13. Et puis évidemment, on continuera après si on a le temps, mais Dieu voulant. Donc je vous propose de commencer par lire, donc on va lire les 13 premiers versets. Donc on prend Marc, et là on attaque vraiment. Et donc on va lire du verset 1 au verset 13, alors s'il y a quelqu'un qui se dévoue pour lire ces 13 premiers versets.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges servaient.
Voilà, merci. Jusque-là. Alors, on va juste s'arrêter un petit peu sur ce premier verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et j'ai mis le titre de l'évangile parce que ça ressemble vraiment à un titre, il n'y a pas de verbe dans cette phrase. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dès le départ, Marc pose un petit peu les choses. Et d'abord, l'évangile, donc, bonne nouvelle, vous le savez, on fait un petit peu de révision. Et c'est un petit peu comme si Marc disait, ça y est, voilà, c'est le commencement de l'évangile. On y est. Les prophètes l'avaient annoncé, on l'attendait, et maintenant ça y est, il est là, la bonne nouvelle est là. Et ce que je remarque, c'est que, alors il y a les vieilles Bibles, là, comme la mienne, là, c'est évangile selon Marc. Et il y a d'autres Bibles où il y a écrit évangile de Marc, évangile de Jean, etc. En fait, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est bien ce que nous voyons ici, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Marc va poser tout de suite les choses. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, Jésus, vous le savez, ça veut dire l'éternel sauve. C'est le nom donc qui a été choisi par Dieu lui-même. Et ça, on le voit dans Matthieu, chapitre 1, dans Luc, verset 1. Jésus, donc Jésus-Christ, donc Christ, Messie, voilà. Donc dans l'Ancien Testament, c'était celui qui était attendu comme étant le libérateur, celui qui viendrait donc libérer le peuple de l'oppression des nations qui étaient là et qui l'avaient asservi. Et il était attendu, vraiment, et avec bien sûr une perspective d'une délivrance physique, d'une délivrance géographique. Le pays serait délivré par quelqu'un qui allait donc chasser l'envahisseur. Et la surprise, ça a été vraiment de voir un libérateur un petit peu différent de ce que le peuple avait imaginé. Et puis, aussi, donc là j'ai mis des références, mais on va pas les prendre, mais également donc l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ça aussi, c'est vraiment encourageant, parce que dès le départ, Marc affirme la divinité de Jésus-Christ. Et parler de Fils de Dieu, c'est vraiment dire que oui, Jésus est Dieu. En disant cela, il affirme Jésus est Dieu. Et beaucoup de sectes qui nient la divinité de Jésus-Christ vont contester cela. D'accord ? Et ils vont dire, oui, mais voilà, Galates 4, 6, il nous est parlé donc des fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu. Adam est appelé le fils de Dieu. Israël aussi. Certains passages vont désigner les anges également comme les fils de Dieu. Mais sauf que là, c'est totalement différent. Là, c'est totalement différent. Regardez dans Jean, au chapitre... je ne l'ai peut-être pas marqué. Oui, Jean, chapitre 5, versets 17 et 18. Si quelqu'un là peut le lire.
Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. »
Oui, tu peux continuer le 18 aussi.
Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Voilà. Donc les Juifs ne se sont pas trompés à cela. Lorsqu'il a appelé Dieu son Père, son propre Père, il savait que donc, il affirmait sa divinité. Et c'est d'ailleurs ce qui a entraîné aussi ensuite sa condamnation. Lorsqu'il a répété cela, lorsqu'il était devant le souverain sacrificateur, et qu'il a été donc poussé à affirmer, il a dit « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Voilà, il blasphème. Qu'avons-nous encore besoin de témoins, puisque nous l'avons entendu? Il blasphème. Voilà. Et on le retrouve aussi dans Jean, chapitre 10, verset 36, aussi. Pareil, tu blasphèmes, parce que tu dis que tu es le Fils de Dieu. Voilà. Et donc voilà, déjà, pour les scribes et les pharisiens, qui étaient au fait donc des Écritures, qui connaissaient cela, affirmer « je suis le Fils de Dieu », ça voulait dire affirmer « oui, je suis Dieu ». C'était donc une affirmation de la divinité de Jésus-Christ lorsque il disait cela. Le verset le plus connu de la parole de Dieu, Jean 3,16, nous est parlé du Fils unique. Et là, bien sûr, il n'y a plus de doute. On ne peut pas après dire, oui, mais bon, ailleurs, nous sommes appelés aussi fils de Dieu. Non, le fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître aussi pour une autre, c'est le verset 18, je crois. Mais voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On voit donc vraiment cette, une affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce premier verset. Et juste le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et on voit que le commencement, c'est donc le ministère de Jean-Baptiste. Et ça aussi, on va le voir dans Actes, chapitre 1, et le verset 22, où, lorsqu'il faut choisir un remplaçant pour Judas, les apôtres vont dire, il faut qu'on prenne quelqu'un qui nous a accompagnés depuis le commencement, c'est-à-dire depuis le ministère de Jean-Baptiste, jusqu'à ensuite l'ascension du Fils de Dieu. Actes chapitre 1, verset 22. Voilà. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc on voit, voilà. Le commencement, c'est donc le ministère de Jean-Baptiste qui est le commencement de la bonne nouvelle et de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc on arrive à Jean-Baptiste. Je vous relis les versets 2 à 8. Alors, selon ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et il va prendre tout de suite donc des références dans l'Ancien Testament. Alors, je vous ai mis ici les références dans les évangiles, et c'est vrai que lorsqu'on étudie un passage, il faut toujours prendre le temps de regarder les autres chapitres, les autres textes qui parlent aussi de ce sujet. Donc là, il faudrait qu'on puisse prendre le temps de lire aussi dans Matthieu, également dans Luc et dans Jean aussi, sauf que bon, mais comme on condense, on ne va pas le faire, mais par contre, on va quand même prendre dans Ésaïe ce texte qui est donc cité par Marc ici. Ésaïe chapitre 40, on lit les versets 1 à 6. Je vous l'ai affiché, mais je ne l'ai pas marqué. Je vous lis à partir du verset 3. Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée et toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine et les filets étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Donc je suis allé un petit peu plus loin, hein, mais en fait voilà, c'est le verset 3 et le verset 4. Et on va retrouver aussi ce texte dans le prophète Malachie au chapitre 3 et verset 1, sauf que là, il est plus dans une notion de jugement, dans un contexte de jugement, et on le reprendra un petit peu plus tard. Alors juste, concernant Jean-Baptiste, bon déjà, il nous a dit qu'il portait donc un accoutrement assez particulier, et vous savez que c'était les vêtements souvent des prophètes. Et je vous ai mis dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8, Élie portait un vêtement de poil de chameau. Voilà. Et puis dans Zacharie, les prophètes ne revêtiront plus un vêtement de poil pour mentir, parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient l'accoutrement des prophètes, mais en fait, ils mentaient. C'était donc pour mieux faire passer leur mensonge qu'ils faisaient cela. Et le prophète, donc, Zacharie, va en parler. Bon, il se nourrissait aussi de miel et de sauterelles. C'était pas un vegan, en tout cas, hein, puis, ses vêtements et sa nourriture. Et il se remarquait, c'était quelqu'un qui se remarquait. Et par contre, petite réflexion, lui, il se remarquait d'une certaine façon, alors que Jésus, lui, c'était pas le cas. Et on sait que Jésus, il n'avait pas un vêtement de poil de chameau, donc il n'était pas à part. Ésaïe nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Et quand il a été crucifié, on s'est partagé, on a tiré au sort sa tunique pour ne pas la déchirer, ce qui nous montre que c'était quand même un vêtement correct et sans doute avec une certaine valeur. Voilà. Donc il y avait quand même une différence entre Jean-Baptiste et Jésus, et c'est normal parce que là, les messages étaient aussi un petit peu différents, ça, on le verra aussi. Alors, quelque chose aussi, c'était que, quelques remarques sur son message, c'est que c'était un tournant pour le peuple puisque c'était la fin de 4 siècles de silence. Et voilà, de nouveau, il y avait un prophète qui était là. Et donc, de nouveau, Dieu parlait à son peuple. Et puis aussi, c'était dans le désert. Et là, c'est assez récent. Et j'ai mis une référence dans Osée, au chapitre 2, verset 14, où le Seigneur parle d'Israël comme son épouse, et il va dire, « Voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est touchant. Et on voit que, Jean-Baptiste est dans le désert, et là, eh bien, Dieu parle à son peuple par ce prophète. Et ça me fait penser aussi que le désert, c'est aussi un synonyme des fois de difficultés, et c'est vrai que très souvent, eh bien, Dieu va nous parler lorsque nous sommes dans les difficultés, parce que peut-être qu'à ce moment-là, on a aussi une oreille plus attentive pour écouter. Donc voilà, quelques réflexions au niveau de Jean-Baptiste. Le baptême, c'était, bon, c'est vrai que lorsqu'on prend l'Ancien Testament, il y avait des impulsions qui étaient demandées, qui étaient nécessaires, qui étaient donc voilà, assez particulières, mais ce n'était pas le baptême proprement dit. Alors, j'ai lu, mais je n'ai pas pu vérifier les sources, que les Juifs demandaient aux prosélytes, aux païens qui voulaient adopter la religion juive, de passer par les eaux du baptême. Je l'ai vu sur plusieurs endroits, mais je n'ai pas eu les sources, donc je vous le cite simplement, juste à prendre comme ça avec des pincettes. Ensuite, quel était le message de Jean-Baptiste? Alors, son message principal, eh bien finalement, il nous est dit au verset 7, il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en baissant la courroie de ses souliers. » En fait, il annonçait, son message, il annonçait Jésus-Christ. Il annonçait Jésus-Christ. Oui, c'était le message de repentance, effectivement, mais c'était Jésus-Christ qui était annoncé. Et ailleurs, il dira, en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Donc vraiment, le message de Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ, comme l'entièreté des évangiles et de la parole de Dieu, de toute façon, qui nous montre systématiquement Jésus-Christ. Donc, baptême de repentance pour le pardon des péchés, et ça, on le met aussi en parallèle avec préparer le chemin du Seigneur. Voilà. Repentance, donc, certains vont parler de demi-tour, hein. Regret profond de ce que l'on a fait, de son état, de tous nos manquements, de tout ce qu'on n'a pas fait alors qu'on aurait dû le faire, et de tout ce qu'on a fait alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Voilà. Et on pense bien sûr au fils prodigue qui est là et qui rentre en lui-même, dit le texte, en se disant, mais voilà, moi ici je meurs de faim, alors que mon père, eh bien, combien de ses serviteurs ont de la nourriture en abondance, je vais aller le voir, je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà. Hein, une image de la repentance. Mais en fait, le message de Jean-Baptiste, c'était vraiment une préparation. Si ça s'était arrêté là, ça aurait été incomplet. Il manquait vraiment quelque chose. Parce que oui, le peuple venait pour se faire baptiser dans cette attitude de repentance. Et le baptême, c'était en fait, quelque part, l'illustration visible de ce qui se passait dans leur cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il va voir des pharisiens et des scribes des pharisiens, il va leur dire, mais hypocrite, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'en fait, ces gens-là venaient pour se faire baptiser, mais leur cœur n'était pas vraiment touché. Donc voilà, c'était le signe de ce qui se passait à l'intérieur, c'était vraiment la repentance. Sauf que si Jésus n'était pas venu, il manquait quelque chose. C'est-à-dire que automatiquement, le peuple serait retombé dans ses travers. Et c'est pour ça qu'il va dire ceci, il va dire dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà, il va mettre en vous le Saint-Esprit, cette capacité, hein, il va venir vivre en vous, il va faire sa demeure en vous pour vous permettre eh bien, de vivre une vie de victoire, et de ne pas retomber systématiquement, eh bien, dans nos travers. C'est un petit peu ce que va dire Hébreu, lorsqu'il nous a dit que les sacrifices qu'on faisait continuellement ne pouvaient pas amener à la perfection, parce que, sinon, on n'aurait pas été obligé de recommencer. Mais en fait, ces sacrifices-là, oui, c'était le pardon du péché qui était là, mais il ne nous permettait pas eh bien, de vivre une vie de victoire sur le péché. Et là, Jean-Baptiste, en disant cela, il vous baptisera du Saint-Esprit, il annonce que oui, la vie de victoire va être possible maintenant. Voilà. Parce que, eh bien, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et juste une petite question sur ce verset. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça vous fait penser à quoi? Alors, il y a plusieurs explications, il y en a une qui ressort, me semble-t-il. Et ça, on le met en rapport avec, donc je vous ai dit que dans Malachie, il nous est aussi cité ce texte-là, la voix qui crie dans le désert, mais plus avec le contexte de jugement. Et en fait, Jésus-Christ, soit il nous baptise du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on l'accepte on accepte, oui, qu'il vienne vivre en nous, et là on est automatiquement, en l'acceptant, baptisé du Saint-Esprit, et si on le refuse, eh bien c'est le feu du jugement qui nous est réservé. Et donc là, quelque part aussi, bien, Jean-Baptiste annonce voilà, cela. Jésus-Christ, là, il vient pour apporter le salut, pour apporter la vie éternelle. Mais pour ceux qui le refusent, hein, il reviendra, mais ça ne sera plus pour apporter la vie, ce sera vraiment pour dans un contexte de jugement. Alors, on avance un petit peu. Et je vous ai mis d'autres versets, mais on va les laisser. Et donc, on va parler maintenant un petit peu, s'intéresser au baptême de Jésus. Et on lit les versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, j'ai oublié, je voulais vous mettre une carte, je le ferai la prochaine fois pour qu'on puisse voir aussi, parce que voilà, il vient ici dans le désert, il vient de Galilée pour voir un petit peu où c'était, voir un petit peu les divisions du pays à l'époque. Je le mettrai la prochaine fois. Le verset 4, on a vu que donc, Jean est venu pour prêcher le baptême de repentance. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Et cela, ça ne nous est pas dit de Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin de confesser ses péchés, bien sûr, puisque lui, il était sans péché. Ce qui fait qu'on peut se dire, mais pourquoi, puisque c'était le baptême de repentance, pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser, hein, finalement ? À quoi ça servait ? Et on a quand même des pistes qui nous permettent de comprendre cela. D'abord dans Matthieu, au chapitre 3, au verset 15. Alors là, pareil, si quelqu'un là peut le lire.
Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, avant de ne résiste plus. »
Et voilà, parce que Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Non, non, je ne vais pas le baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser, au contraire. Et voilà, donc, que nous puissions donc accomplir tout ce qui est juste. Donc voilà, et on voit vraiment que Jésus est là comme le parfait serviteur, mais aussi, voilà, véritablement homme, et il veut voilà, accomplir voilà, tout ce qui est juste, tout ce que... Alors, ce n'est pas la loi qui le demande, mais tout ce que la logique demande. Et il se met donc au niveau de ceux qu'il est venu sauver. Et on va le voir aussi avec un autre point. Parce qu'on peut dire aussi que... Enfin, je ne vous l'ai pas mis ici. Mais que, voilà, c'était donc un acte d'obéissance, tout ce qui est juste. Mais c'est aussi une identification avec ceux dont il allait porter le péché. Et dans Hébreux, chapitre 2, verset 17, il dit qu'il a dû être rendu semblable en nous, qu'il a dû être semblable... rendu semblable en toute chose à ses frères. Il a été rendu semblable en toute chose à ses frères. Il nous a parlé de cela, et il nous a précisé sans commettre de péché. Et donc voilà, c'était donc une identification aussi avec le peuple. Et puis, Romains chapitre 6 nous parle du baptême et donc de cette signification. Et on voit que donc c'est également une image de sa mort et de sa résurrection que Jésus a confessé ici. Et alors, ce qui est intéressant, quand on reprend donc dans Marc, c'est ce qui nous est précisé ensuite. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il vit les cieux s'ouvrir. Et le terme qui est utilisé ici, hein, qui est traduit par s'ouvrir, on va le retrouver ailleurs et il va être traduit par déchirer. Par exemple, dans l'évangile de Marc, oui, au chapitre 15, verset 37 à 39, Jésus y a poussé un grand cri, expira, le voile se déchira en deux. Donc c'est le même terme qui est utilisé, le voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. Et je vous ai mis ici dans le prophète Ésaïe, chapitre 63, verset 19, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. » Le contexte, c'est le peuple est en souffrance. Il y a le jugement qui s'abat sur lui. Et le peuple gémit. Et le prophète va dire ceci, « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu venais nous voir, vraiment. » Et vous voyez, eh bien, c'est ce qui se passe lorsque Jésus ressort de nous. Et c'est ce qu'annonce Marc ici aussi. Voilà. Les cieux ont été déchirés. Et si on met un rapport avec le voile qui a été déchiré, ça nous parle vraiment de cet accès que nous avons maintenant. Et voilà. En Jésus-Christ, Dieu est véritablement descendu. Dieu est descendu. Et puis également, l'Esprit, le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe avec ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, il y a des sectes qui pensent qu'en fait, Jésus n'était pas véritablement un homme. Donc voilà, et Jean va dire dans le premier épître que celui qui nie que Jésus est véritablement venu en chair, c'est l'Antéchrist. Et il y a des sectes qui se basent sur ce texte pour dire que voilà, Jésus c'était un homme, et à ce moment-là le Saint-Esprit est venu, donc là il était quelque part le Fils de Dieu, et puis avant sa mort, et bien de nouveau le Saint-Esprit est reparti. Bon, c'est absolument faux, c'est totalement faux, et on le voit encore dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 11, versets 1 et 2, je vous le lis. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et puis, Isaïe toujours, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur et de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et c'est un texte que nous retrouvons parlant de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc voilà, l'Esprit descend sur lui comme une colombe, mais il est véritablement le Fils de Dieu. Et il y a ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé » qui appuie cela, « Tu es mon Fils bien-aimé en toi, et j'ai mis toute mon affection. » Et là aussi, je vous avais mis une référence, toujours dans Ésaïe, chapitre 42, verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Et en fait, on retrouve cela dans ce texte, lorsqu'il nous est dit, donc, « Tu es mon fils bien-aimé », il y a des traductions qui vont dire « Tu es le fils en qui je prends plaisir. » Et c'est vrai que le texte peut se traduire des deux façons. Voilà, « Tu es mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point la rose cassée, on l'a dit tout à l'heure, il n'éteindra point la neige qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Et donc nous avons ici, dans ce texte de Matthieu, en fait les trois personnes de la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont impliquées, et cela pour le salut donc, de l'humanité, et pour notre salut aussi, encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et moi, je trouve que là encore, c'est quelque chose qui est tellement intéressant. Alors, le temps est passé très très vite. Juste, voyons, moi, des fois, ce texte-là, au départ, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, parce que il ne criera point dans les rues, il n'élèvera point la voix. Or, on a entendu Jésus élever la voix dans les rues, même assez fort lorsqu'il y avait la foule. Là, il s'est adressé à la foule. Donc ça ne correspond pas. Et en fait, en cherchant un petit peu, de quoi est-il question ici? Il est question de Jésus qui ne va pas les manifester, qui ne va pas les contester dans les rues. On ne va pas le trouver comme cela. Il ne va pas aller s'opposer aux Romains en déclenchant une manifestation, en allant brûler des poubelles, etc., pour renverser les voitures. Non, voilà. Il est là, et puis il va simplement annoncer non pas la délivrance pour le peuple là, immédiate, finalement, mais la véritable délivrance, la délivrance éternelle, en montrant qu'il est là, oui, pour le salut de chacun, pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Voilà, donc c'est 20h, bon, on va arrêter, puis du coup là, on verra le reste la prochaine fois, on fera vraiment un survol pour réussir à arriver à 20h mardi prochain, avec ce verset 6 du chapitre 3, donc beaucoup de passages, mais on fera vraiment un petit survol à ce moment-là. Donc, voilà, si quelqu'un donc, veut simplement terminer en priant.
Seigneur Jésus, vraiment merci d'avoir voulu t'abaisser jusqu'à nous, d'avoir déchiré les cieux pour venir près de nous et faire de toi notre serviteur. C'est un enseignement vraiment fort. Et merci pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Amen. Amen. Amen.